Bon début de semaine tout le monde. Cette semaine avec Karim dans Toute Liberté, la médecine familiale, c'est boudé. Il y a de plus en plus de jeunes médecins qui sont en cours de leur doctorat ou qui sont sur le point de le terminer, que non, on va aller ailleurs. On va aller dans la médecine spécialisée, dans tous les autres domaines de poste. La médecine familiale, c'est boudé. Pourquoi, comment, les causes? Ben, on en parle avec Karim un matin dans En Toute Liberté. Salut Karim.
Salut Joey.
Yes, médecine familiale, c'est un sujet un peu plus court aujourd'hui, mais tu voulais qu'on en parle, je vais mettre ça à l'écran immédiatement pour que les gens suivent. En fait, tu m'as envoyé ça, un article Journal de Montréal. C'est un constat d'échec. La médecine familiale, encore boudée par les futurs médecins, déplore le syndicat. Un article du 20 mars 2024. Écoute, c'est un sujet qu'on entend quand même parler depuis un certain bout de temps. T'sais, on dit souvent que il y a moins en moins de médecins de famille qu'avant, dans le sens que les nouveaux médecins des nouvelles générations ont tendance à vouloir prendre moins de patients que ceux des âges plus vénérables, qui sont, en tout cas pour ceux qui restent, qui sont encore là. Mais plus on voit ça, puis personnellement, écoute, autant que j'irais jamais en médecine de ma vie, si on me donnait l'occasion d'y aller, puis on me forcerait, puis je ferais toutes les études, est-ce que personnellement j'irais en médecine familiale? Ben, je vais t'avouer que potentiellement que non. Donc, je comprends d'une certaine façon, de mon point de vue extérieur, de non-clinicien, que j'aimerais beaucoup plus être dans médecine spécialisée, puis justement, entre guillemets, gagner plus cher, puis moins me casser la tête finalement. Là.
Ben, écoute, je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Puis comme c'est un sujet qui est un peu plus court, j'en ai profité aussi la deuxième section de notre entretien aujourd'hui. Joey, on va faire, je l'annonce aux auditeurs, là, on va faire un Q&A. Comme on n'est pas en direct, c'est pas des questions live que je prends, mais c'est parce que, puis ça, je suis quand même content. Il y a des auditeurs qui sont vraiment crinqués quand même. Puis tu sais, dans le bon sens, il y a des auditeurs qui m'envoient des articles en privé, tu sais, qui me trouvent sur Messenger, ils m'envoient des articles, ils me posent des questions. Ils ont vraiment l'air à s'intéresser au réseau de la santé.
Ah oui.
Puis malheureusement, il y en a qui doivent trouver des fois que je suis bête parce que je leur dis que je vais leur répondre, puis je l'oublie, j'ai pas trouvé le temps pour le faire parce qu'il faut dire que...
Avec ton horaire, t'as quasiment une méchante excuse. T'étais urgentologue à temps plein. En plus, t'es président d'une commission politique d'un parti politique provincial, puis tu te déplaces, puis tu fais des podcasts au travers.
C'est un peu ça. Mais tu sais, par respect pour les auditeurs là, qui prennent quand même le temps de m'écrire, puis je leur dis, écoutez, je trouve ça très, très satisfaisant, puis ça fait en sorte que... Une des raisons pourquoi c'est intéressant de faire des podcasts comme ça, quand on voit que les gens s'intéressent. Donc, puis je vais le faire de temps en temps. J'ai pris quelques questions qui reviennent souvent en privé, puis je vais y répondre à la fin pour ceux que ça intéresse. Donc, premièrement, bon, le sujet, je trouvais qu'il était assez intéressant parce que dans un système de santé, comme dans tout système, tu as une fondation, tu as une base, OK?
La bedrock.
Même si au sommet de la pyramide, tu as l'ultra-fellow en chirurgie cardiaque, qui est une sommité planétaire, si, je veux dire, les ambulanciers n'ont pas fait leur job au début, ça, c'est vraiment la grosse base, là, c'est le préhospitalier, c'est-à-dire les ambulanciers, les paramédics, tout ça, importance capitale. Si eux autres ne font pas leur job, le patient, il arrive à l'urgence, puis soit il est mort, soit il est, je veux dire, s'ils l'ont pas, des fois, s'ils l'ont pas intubé assez rapidement, s'ils n'ont pas fait leur job, les dommages sont déjà faits. Donc, après ça, tu as toute la première ligne. La première ligne, c'est quoi? C'est les services des urgences, c'est les services de médecine familiale en cabinet, médecine familiale en hospitalisation, etc. Et plusieurs moratoires, quand même, ont démontré qu'il manque à peu près, là, ben, deux moratoires ont démontré qu'il manque à peu près 1000 médecins de famille au Québec. C'est clair. Et probablement que c'est d'année en année, ce nombre-là de 1000 va être sous-estimé en raison du vieillissement de la population, plus de gens malades, besoin de plus de soins, espérance de vie qui augmente, donc plus de cancers naturellement, parce que rappelons, c'est quoi le cancer? Hein? C'est une cellule anarchique, c'est une cellule qui devient que son développement, son accroissement, sa réplication devient anarchique. Ça, c'est une question de probabilité. C'est-à-dire, à tous les jours de ta vie, il se développe des cancers dans ton corps, mais tes lymphocytes T sont capables de le bloquer, le cancer. À un moment donné, tes lymphocytes, ils en laissent passer un. plus tu avances en âge, plus la probabilité fait en sorte qu'à un moment donné, tu vas en pogner un. Donc, l'espérance de vie qui augmente, plus de cancer, et on sait, les patients qui sont atteints de cancer, il y a des multiples comorbidités rattachées à ça, ont besoin de beaucoup de soins. Donc, c'est ça. Maintenant, donc, il manque à peu près au moins 1000 médecins de famille au Québec. Et aussi, on avait déjà parlé avant, changement anthropologique des populations, les deux conjoints travaillent. Les médecins veulent aussi voir leurs enfants. Ça fait partie de la vie, disons. Donc, il en manque. Et là, un des gros problèmes qu'on a, puis on le savait déjà, mais là, c'est le président de la FMOQ fédéral, parce qu'il y a deux syndicats. Dans les Q&A, on va séparer c'est quoi le collège, c'est quoi les syndicats, là, je vous le dis tout de suite. Mais il y a deux syndicats chez les médecins. Il y a la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc pour les médecins de famille, et il y a la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour les médecins spécialistes. Donc, ce que le docteur Amiot nous dit, et c'est vrai, là, c'est corroboré statistiquement son affaire, les chiffres sont là. Parce que la façon que ça fonctionne, lorsque tu fais ton 5 ans de médecine, 5 ans de médecine générale, après ça, il faut que tu ailles faire ton 5 ans de médecine, il ne te donne rien. Tu n'as pas de droit de pratique avec ça du tout. Pour avoir un droit de pratique, il faut que tu ailles faire une résidence. Okay? Résidence, c'est-à-dire tu te choisis un domaine de spécialité, incluant la médecine familiale. Tu peux choisir soit la médecine familiale, soit la cardiologie, soit la radiologie. OK. Et tu as ce qu'on appelle le premier tour, ce qu'on dit dans l'article, c'est qu'après le premier tour, c'est les premiers choix de tous les étudiants en médecine. Comme il n'y a pas de place pour tout le monde ne peut pas être un radiologue, ça ne ferait pas de sens. Donc, les places sont contingentées aussi en médecine familiale. Mais en médecine familiale, tu n'as pas assez de candidats qui veulent faire ça pour occuper l'ensemble du contingent.
J'aurais une question, Karim. Mettons qu'il y aurait un jeune médecin, homme ou femme, whatever, que lui, il se dit « Mon rêve, c'est être radiologue. » Comme tu dis, « Je veux aller en radiologie. » Sachant que, mettons, il ne réussit pas à passer au premier tour, c'est que c'est quoi? Il attend un an en médecine générale jusqu'à temps que le tour revient pour essayer de passer?
Le classique, ce qu'ils vont faire dans ce temps-là, souvent, ils vont prendre une genre, puis c'est mentionné aussi dans l'article, là, de façon brève, ils vont prendre une année sabbatique, ils vont se mettre à faire de la recherche dans ce domaine-là pour réappliquer l'année d'après puis augmenter leurs chances. Parce que le classique... Puis pourquoi moi j'aime parler de ça? Parce que j'ai quand même une certaine crédibilité pour parler de ça parce que moi, j'ai les deux formations. Moi, j'ai une formation en médecine spécialisée. J'ai fait une formation en... j'ai fait une résidence en neurochirurgie, OK? Et j'ai décidé par choix personnel de réorienter ma carrière vers la médecine générale. Donc ça, c'est un choix personnel. Puis je vais expliquer un petit peu les raisons avec les avantages, inconvénients. Mais j'ai vu les deux côtés, OK? Ce qui va m'amener tout à l'heure à montrer un peu c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients spécialité versus médecine générale. La façon que ça fonctionne, c'est-à-dire, donc moi, ma première résidence, j'avais appliqué, c'est-à-dire j'avais ranké, tu peux ranker par exemple neurochirurgie en premier, chirurgie générale en deuxième, radiologie en troisième. La façon, généralement, lorsque tu veux rentrer dans une spécialité qui est pointue, qui n'accepte pas beaucoup de monde, le classique, c'est qu'il faut que tu fasses beaucoup de stages là-dedans, tu te fasses connaître et tu fasses de la recherche. Moi, c'est ce que j'avais fait personnellement pour rentrer en neurochirurgie. Et moi, je connaissais des gens qui n'avaient pas rentré la première année, mais après ça, qui sont rentrés une année plus tard. Ils avaient fait une année sabbatique, faire de la recherche, se faire connaître dans le milieu. Et finalement,
ça doit arriver souvent quand même, là, parce que surtout après la quantité d'années d'études que tu as faites, si rendu que ta destinée de médecin dépend de quasiment du jeu de hasard, d'une machine un peu comme une genre de roulette, un peu, tu te dis, ben là, je vais focusser sur celui-là que je veux vraiment y aller, puis si ça passe pas première année, ben je vais te toffer jusqu'à temps que ça soit mon tour finalement.
Souvent, c'est ce qui se passe. Et là, puis c'est tout à fait légitime de faire ça. Puis moi,
c'est ça que je ferais.
Exactement. Et moi, l'objectif, c'est pas de dire aux étudiants, ben là, il faut forcer le monde à aller en médecine familiale. Pas ça mon point du tout.
On donnera pas d'idées au gouvernement. Hein? On sait qu'il aime beaucoup ça, ce genre d'idées-là.
j'aime pas cette façon liberticide de voir les choses. Mais faut constater qu'il y a un problème. Il y a clairement un problème ici parce que au premier tour, 91 postes en médecine familiale au Québec n'étaient pas comblés. 91 postes sur 528. C'est quand même assez alarmant quand tu regardes ça, là, 91 postes. Puis l'an passé, c'était 99, donc on est dans les mêmes chiffres à chaque année. Et selon la FMOQ, 600 postes non comblés depuis 12 ans. Et on dit qu'il nous en manque à peu près 1000 dans le réseau, puis tu as 600 postes non comblés depuis 12 ans parce que, comme l'article le dit, les étudiants en médecine boudent la médecine familiale. Donc là, tu as quand même un gros problème. Si tu avais plus d'effectifs, c'est sûr que c'est pas comme en chirurgie où est-ce que juste avoir plus de chirurgiens, c'est pas nécessairement suffisant parce qu'il faut peut-être des plateaux techniques à côté. En médecine familiale, les plateaux techniques sont pas très complexes. Donc, juste le fait d'augmenter ton nombre de médecins, tu vas naturellement renforcer, augmenter ton nombre de médecins de famille, tu vas renforcer de façon très significative ta première ligne puis donner accès aux gens à un médecin de famille. Puis c'est quoi l'importance de la première ligne? C'est-à-dire, la médecine familiale, ça mène à plusieurs choses. Qu'on parle médecine familiale, médecine générale, c'est la même chose. Ça mène, tu peux faire de l'urgence, comme moi, par exemple, je fais de l'urgence. Tu peux faire du bureau, j'en fais aussi, là, je prends des patients en charge. Tu peux faire de l'hospitalisation, ça, j'en fais aussi, c'est-à-dire hospitaliser les patients des patients qui arrivent à l'urgence, qui sont malades, et tu les hospitalises parce qu'ils ont besoin de soins. Donc, tu peux travailler en CHSLD. Il y a donc une première ligne comme ça, tu fais les soins palliatifs aussi. La toxicomanie, c'est géré par les médecins de famille. Donc, l'importance d'avoir une première ligne qui est forte, c'est capital dans le réseau de santé. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment un problème de recrutement parce que les étudiants boudent cette première ligne-là. Puis si tu n'as pas une première ligne qui est forte, un autre problème, c'est que tu t'engorges potentiellement une deuxième ligne parce que si tu as trop de patients à suivre, puis tu es obligé pour voir ta clientèle de voir 25-30 patients par jour, tu n'as pas le temps de passer suffisamment de temps par patient et souvent, tu vas avoir tendance à donner une consultation en spécialité plus rapidement quand tu aurais peut-être pu régler le problème toi-même. Donc, tu engorges une deuxième ligne de façon vraiment non efficace.
Mais c'est-tu pas un peu logique, un peu derrière, dans le sens que, tu sais, je comprends qu'avant, tu sais, dans les plus vieilles générations, simplement être médecin tout court, c'était déjà un... Tu sais, il y avait lui, t'avais le médecin, t'avais le curé, puis t'avais à la limite l'avocat, puis c'était pas mal, tu sais, c'était quasiment les tops de la société, là. Je dis pas que ça l'est plus, là, ça l'est encore, mais on parle, c'est ça, on a une vision haute de la société aujourd'hui, de comment c'était à l'époque. Que ce soit médecine familiale ou peu importe, c'était pas mal tout égal, puis on voyait que c'était essentiel. Mais là, ben, autant que un des problèmes de pourquoi ils veulent pas y aller, ben, tu vas le mentionner dans peu de temps de ce qui est relevé dans l'article, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine logique derrière, sachant que je comprends, on parle de médecine familiale, de ma tête à moi, ça dit vraiment médecine généraliste, donc il faut vraiment que tu restes up to date sur, comme tu dis, plein de domaines, plein de dossiers, que ce soit en cardiologie, toxicomanie, de ci, de ça. Fait que tu as beaucoup de littérature médicale à rester up to date dans ta job aussi. Tant que ça, ou tu t'en vas en médecine spécialisée, mettons, je ne sais pas, en cardiologie, ben autant que je comprends, il faut que tu gardes une certaine médecine de base, tu ne sois pas ce que tu penses, que tu comprennes un peu ce qui se passe, mais tu focuses juste sur le cœur. Puis tu dis, parfait, regarde, tout le reste, je vais référer ça à un autre de mes collègues. Fait que c'est beaucoup moins de trucs à... En tout cas, c'est beaucoup moins compliqué en partant, là, au lieu que tout le corps humain au grand complet. Là.
Tout à fait, puis ça nous amène...
T'es payé plus cher, en plus, parce que justement, t'es spécialisé.
C'est ça. Ça nous amène vraiment à la... c'est bien dit, Joey, là, t'as bien résumé ici. Ça nous amène à la seconde partie de l'article. Ce que le président Dr. Amiot de la FMOQ déplore par rapport à ce qui est mentionné, parce qu'il y a quand même des sondages qui sont faits auprès des étudiants, ce qui fait en sorte qu'ils sont moins intéressés par la médecine familiale. Puis moi, je vais donner mon analyse de ça après. Mm-hmm. Il parle beaucoup de paperasse. Après ça, lourdeur.
Tellement surpris.
Là, c'est ça, beaucoup de paperasse. Après ça, la lourdeur des cas. Le dénigrement de la profession et beaucoup de pression sur les épaules. Bon. Et le salaire. Bon. Prenons-les un par un. Commençons par la question du salaire. Ça, je dirais que c'est un peu la portion la moins crédible dans le sens que c'est vrai lorsque tu regardes les moyennes. Puis moi, je vais juste donner mon avis personnel, là. Lorsque tu regardes les moyennes en spécialité, de façon générale, tu prends la moyenne des omnis. Tu prends la moyenne des spécialistes, il y a à peu près un 30 % d'écart entre les deux. Cependant, je crois que ce chiffre-là est biaisé. Si je me fie à mon expérience personnelle, Moi, personnellement, je veux dire, je fais à peu près le salaire moyen d'un spécialiste, mais je travaille beaucoup, ça, faut le dire. Ce qui arrive, c'est qu'en médecine familiale, en médecine générale, tu as plus de liberté par rapport au nombre d'heures que tu vas travailler dans une semaine. T'sais. Moi, je pourrais décider de ne plus faire d'urgence, par exemple, puis de faire uniquement 2 jours de bureau par semaine. Mon salaire diminuerait de façon très significative, mais j'aurais une qualité de vie à côté qui serait plus élevée. Dans beaucoup de spécialités, donc ça, puis tu as des gens en médecine familiale qui décident ce mode de vie-là. Je vais travailler, je vais faire 3 jours de bureau par semaine, je ne ferai rien d'autre du tout. Mais c'est sûr que tu travailles 3 jours par semaine versus si tu en travailles 6, ben, y a une différence versus si tu en travailles 5. Dans beaucoup de spécialités, tu n'as pas cette possibilité-là. On parle, par exemple, l'exemple de la cardiologie. Si tu es cardiologue, par exemple, au Centre de pneumo et de cardio de Québec, là, ce qu'on appelait avant l'hôpital Laval, par exemple, il faut que tu aies des listes de garde à couvrir. Puis il faut qu'à un moment donné, ta rotation vient. Il faut que tu couvres à un moment donné une semaine, il faut que tu couvres l'unité coronarienne. L'autre semaine, il faut que tu couvres les consultations à l'urgence. L'autre semaine, il faut que tu sois de garde à l'étage.
T'es prisonnier de ton département, finalement.
D'une certaine façon, puis comme tu es cardiologue, ben à partir de ce moment-là, puis tu es engagé dans un hôpital, comme tu dis, tu n'as comme pas le choix de remplir la liste de garde. Moi, je n'ai pas le choix de remplir des listes de garde à l'urgence puis en hospitalisation, mais je m'impose ça moi-même, tu comprends? Je pourrais tout à fait décider de m'en aller faire uniquement du bureau puis le nombre de jours par semaine que je veux. Donc, à cause de ça, le salaire des omnis est comme, on a l'impression que c'est significativement moins, mais ça prendrait une analyse plus rigoureuse pour voir l'heure travaillée, combien elle est payée. Parce que tu as des omnis qui peuvent tout à fait faire le salaire moyen d'un spécialiste. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, je ne suis pas certain. Peut-être que les étudiants en médecine ont l'impression que c'est significativement moins payant, mais la réalité, je ne crois pas que c'est tout à fait vrai. Donc, je pense pas que...
C'est peut-être plus via genre l'équivalent charge de travail versus salaire. C'est, en tout cas, du moins l'impression que ça donne.
Peut-être. Ça, il faudrait faire une analyse vraiment pour voir l'heure travaillée. C'est-à-dire, comme tu dis, là, vraiment la charge de travail versus le salaire. Ça, il faudrait vérifier ça. Pour voir est-ce que cette statistique-là tient la route. Mais j'ai un point d'interrogation, disons, par rapport à l'aspect salarial. Maintenant, lorsqu'il parle, il parle également de pression sur les épaules. Bon, pression sur les épaules, tu décides de faire de la médecine, d'envie, tu vas en avoir.
C'est ça, à un moment donné, ne sois pas surpris si t'es rendu dans l'espace, t'as demandé d'être astronaute. Là. À un moment donné, c'est un peu ça.
Donc ça, c'est tout à fait normal, il faut en avoir de la pression sur les épaules. Mais j'apporterais un point ici que je pense que compte tenu de la personnalité des étudiants, des gens qui rentrent en médecine, peut-être que c'est un style de pression que la majorité n'aime pas. OK? Puis je vais expliquer. Moi, j'appellerais ça la gestion de l'incertitude. Lorsque les gens en médecine, les résultats académiques sont très importants pour eux. C'est pas juste ça, il y a des entrevues, il y a des tests psychométriques, mais la portion résultats académiques est très importante. Pour avoir le type de résultats académiques qu'on exige pour entrer en médecine, tu vas souvent recruter des personnalités de type un peu obsessionnel-compulsive, OK? C'est-à-dire, pas nécessairement des troubles de personnalité obsessionnelle-compulsive, mais des traits de caractère. Et ce qui est bien, bien documenté dans les traits de caractère obsessionnels-compulsifs, c'est souvent les gens ont de la difficulté à gérer l'incertitude. Donc, c'est sûr que de faire une spécialité, d'aller chercher un bagage de connaissances très élevé dans un domaine précis, parce que moi, j'ai vécu les deux, OK? Le monde spécialisé, le monde de l'omnipratique. Et c'est sûr qu'en médecine familiale, en médecine générale, de façon générale,
Il y a beaucoup de
plus d'incertitudes parce que tu ne peux pas tout connaître.
Non,
il t'arrive des cas, par exemple, à l'urgence, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, des fois, il faut que tu regardes rapidement sur une application, il faut que tu te remémores tes algorithmes parce que ce n'est pas tous les jours que ce genre de cas arrive. Même chose, en bureau, tu es dans une atmosphère plus contrôlée, mais quand même, tu as cette responsabilité-là. C'est sûr que tu peux demander des consultations en spécialité, mais le spécialiste, il n'est pas toujours à côté de toi pour répondre à tes questions 24 heures sur 24, là, on s'entend. Donc, c'est une forme de gestion d'incertitude que tu... que tu as moins en spécialité. En spécialité, quand ça fait, quand tu as fait toute ta résidence au complet, puis tu as quelques années de pratique, souvent, tu, pas mal 95 % des cas que tu rencontres, tu sais exactement quoi faire, tac, tac, tac.
Quand, c'est ça, tu as déjà vu, là. Parce que c'est ça, le fait que c'est ultra général, c'est autant que c'est. C'est comme un genre de bonus-malus, parce qu'un côté, entre guillemets, c'est captivant, parce que justement, tu as l'impression d'aider vraiment les gens, tu es sur le plancher des vaches, comme tu dis, tu fais partie de la première ligne, puis tes journées ne sont pas toutes pareilles, sachant que, oui, il y a des problèmes qui reviennent souvent, mettons, durant la saison, des grippes, des trucs comme ça, mais généralement, tu sais, un cas en amène un autre qui n'est pas nécessairement le même à chaque fois, tandis que, autant tu as l'élément moins certain, mais au moins, tu vois de quoi de nouveau à chaque jour, tandis que le spécialisé... Ben c'est ça, là, le gastro-entérologue, il en a vu d'autres, là, fait qu'il a une pas pire idée, OK, tel symptôme, pas mal certain que c'est ça. T'sais.
C'est ça. Donc, tu as ça des fois pour des types de personnalités obsessifs, compulsifs, d'avoir du flou puis de ne pas tout connaître et des fois de prendre une décision dont tu n'es pas sûr si tu avais nécessairement tout le bagage de connaissances pour le prendre, mais tu n'as comme pas eu le choix. Parce que ben c'est toi qui es là dans l'urgence, puis il est 2h du matin. Donc là, à un moment donné, faut que tu prennes des décisions. Puis ça, je pense que ça y est pour beaucoup. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est le fun d'une certaine façon. Moi, j'aimerais ça avoir de l'incertitude. Puis tu sais, je veux dire, apprendre à tous les jours des nouvelles choses. » Oui, mais je parle pour le type de personnalité souvent qui est admis dans les facultés de médecine. C'est quelque chose qui peut être un lourd, lorsqu'on parle de lourdeur sur les épaules. Je pense que peut-être le docteur Amiot, il voulait dire ça, mais moi, je l'interprète comme ça, là, de mon expérience empirique avec mes collègues. Ouais. Donc, l'autre chose ici, qui est vue, qui peut être vue comme un avantage ou un inconvénient, mais je pense que beaucoup de médecins le voient comme un inconvénient, c'est le suivi à long terme du patient. En médecine familiale, c'est-à-dire, tu prends un patient et c'est ton patient à partir de, ça peut être à partir de ta première année de pratique jusqu'à ta dernière année de pratique. Tu as comme une responsabilité sur le patient jusqu'à ce que, mettons que le patient déménage ou le patient change de médecin de famille, mais la plupart du temps, tu demeures son médecin pour des décennies.
Donc, oui, ça, comme moi, excuse-moi de te couper, moi, à la limite, je suis mi-chanceux parce que depuis que j'ai peut-être 5-6 ans, j'en ai un médecin de famille. J'étais un des rares, mais à la limite, je me sens un peu coupable parce que je m'en suis tellement pas servi souvent dans ma vie, contrairement à bien du monde, que je me dis, ben, c'est le fun d'en avoir un, mais je le rentabilise pas tant que ça parce que j'ai rarement été malade à un point que j'ai dû retourner voir mon médecin de famille, tu sais. Puis autant que ils vont dire, ben, c'est le fun, Joe, tu restes en santé. Ouais, je le sais, mais je sais que lui, j'ai peut-être encore, je sais pas, là, peut-être encore un 10 ans avec avant qu'il décide de prendre sa retraite, comme tout le monde, on vieillit tous. Hein. Fait qu'après ça, puis je le sais que plus je vais vieillir, plus mes problèmes de santé vont augmenter, puis finalement, je vais retourner sa liste d'attente au moment que peut-être je n'aurai le plus besoin d'un médecin.
Exact.
Tu sais.
Exact.
C'est un peu le cycle de la vie. Là.
Exact, c'est ça. Et tu as beaucoup de médecins qui voient ce suivi à long terme. Tu en as certains qui le voient comme un avantage, OK? Donc, ceux qui choisissent la médecine familiale d'abord et avant tout, puis c'est la première chose qu'ils voulaient faire, puis c'est vraiment, ils étaient vraiment décidés de faire ça, souvent vont le voir comme un avantage. D'autres vont le voir comme une lourdeur, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité d'une personne, de la santé de quelqu'un pour des années, voire même des décennies. Certains vont préférer avoir une genre de pratique plus spécialisée où est-ce que, à partir du moment où le patient est stabilisé, que tu ne peux rien lui offrir de plus, tu lui donnes congé, tu le renvoies à son médecin de famille. Parce que toujours, il y a ça qu'il faut dire en médecine familiale, c'est que des fois, le spécialiste, il ne peut plus rien faire. T'sais? Mais à partir du moment où il ne peut plus rien faire, c'est normal, le spécialiste ne suit plus le patient. Lui peut dire, vous retournez à votre médecin de famille. Mais lorsque le patient retourne à son médecin de famille, il y a encore des doléances, il y a encore mal, il y a encore de la souffrance. Donc, il faut que tu trouves une façon de l'accompagner, même si les traitements médicaux ont pas mal été donnés au maximum. Là, je vais donner un exemple. Oui, par exemple, le fameux hernie discale, mal dans le dos, OK? Mal dans le dos qui irradie au niveau de la jambe. Des fois, bon, tu espères quand tu l'envoies pour faire une infiltration dans le dos en radiologie, t'espères que ça règle le problème. Si ça ne règle pas le problème, le radiologiste, il va dire, j'en ferai pas deux. Là. Après ça, ou je vais en faire une deuxième. Si la deuxième ne fonctionne pas, ben, on n'en fera pas une troisième. Après ça, tu l'envoies en chirurgie. Puis le chirurgien, s'il dit non, ce n'est pas un cas que je peux opérer, il n'y a pas d'indication chirurgicale, mais il va quand même te revenir, il va quand même avoir mal, il faut que tu gères sa douleur, il faut que tu gères ses doléances, entre guillemets. Donc, il y en a qui trouvent ça, qui trouvent que ça, c'est lourd et qui préfèrent une genre de pratique où est-ce que tu vois les patients de façon plus ponctuelle, t'offres ton expertise de spécialiste, et une fois que ton expertise de spécialiste est offerte, tu renvoies le patient à son médecin traitant qui est le médecin de famille. Donc, c'est beaucoup de médecins préfèrent cette approche-là plutôt que l'approche de constamment avoir un contact régulier avec le patient et de suivre le patient à long terme.
C'est là que les fameuses pilules placebo, des fois, rentrent en ligne de compte, hein, Karim, des fois.
Un peu.
Pas tout le temps, mais tu, des fois, tu as l'impression que des petites capsules de sucre, c'est juste ça que ça prenait pour qu'il arrête de t'achaler.
En réalité, on prescrit, c'est très rare qu'on va prescrire du placebo chez les patients. Là. Ça, c'est très, très rare. Mais.
Tu vraiment ça des pharmacies, genre vraiment une section qui ne disent pas, ils ne disent pas aux clients, mais c'est vraiment marqué genre placebo, puis OK. Mettons, je sais pas, mettons le médecin, il envoie un genre de papier avec un nom d'un médicament, whatever, mais c'est comme le code name du placebo pour le pharmacien. Là,
ça existe, mais pour que tu fasses ça sur le plan éthique, il faut vraiment que tu aies vraiment une excellente raison
de faire ça
sur le plan éthique. Il y a vraiment, là, déontologiquement parlant, il y a vraiment des critères à suivre pour que tu en arrives là. Moi, ça m'est jamais arrivé de le faire personnellement dans ma pratique. Mais par contre, lorsque tu prescris un médicament à un patient, ça peut arriver, il y a une composante placebo aussi qui peut, les études le démontrent très bien, là, je veux dire. Des fois, tu prescris un médicament à un patient, puis le patient te dit qu'il va mieux. Si tu vois des signes physiques d'amélioration, je veux dire, il y a de l'eau sur les poumons, tu lui donnes un médicament, il n'y en a plus, tu le vois au rayon X, s'entend, ça a marché. Mais beaucoup avec les antidépresseurs, tu as un effet placebo qui est assez important. Là, donc, de déterminer est-ce que c'est plus ton médicament ou c'est plus l'effet placebo qui a aidé, parfois ça peut être difficile. Après ça, quand on regarde, par contre, il y a certains avantages, puis ça dépend, puis bon, il parle de dénigrement. Bon, dénigrement, c'est-à-dire que ça dépend des pays, ça dépend des nations, ça dépend du peuple. Si tu prends, par exemple, en Suède, la médecine familiale, c'est une des spécialités, c'est considéré comme une spécialité en soi. Ben, ici aussi, mais moins, c'est une des spécialités qui est la plus longue, que la résidence la plus longue. C'est extrêmement valorisé parce qu'ils le voient vraiment comme un spécialiste de première ligne qui prend beaucoup de connaissances. Ici, c'est vrai que sur le plan du prestige social, pour ceux que c'est important, là, c'est sûr que c'est moins prestigieux qu'être cardiologue ou qu'être chirurgien.
Mais c'est ça, là. Tu sais, t'es médecin de base, mais souvent, mettons, justement, comme tu le dis, on dit que, comme, mettons, quand tu es un neurochirurgien, pas tant de trucs, puis l'autre, tu es médecin de famille, on s'entend que on a tendance à dire que le neurochirurgien est sûrement plus brillant ou plus prestigieux que l'autre, tu sais.
Exactement, ce qui est, tu sais, c'est une fausse mentalité à avoir, mais ça dépend des peuples. Comme Suédois voient ça de façon très, très, très différente. C'est ultra valorisé, la médecine familiale en Suède. Les Suédois sont différents de beaucoup de peuple sur la planète. Là. On l'a vu même pendant la pandémie. C'est un peuple assez particulier, je pense, là, dans le bon sens, honnêtement. ici, c'est vrai que c'est moins prestigieux. Mais moi, ce que je dirais aux étudiants en médecine, de façon générale, moi, j'ai été des deux côtés. Là. Puis lorsque tu es en neurochirurgie, par exemple, tu le vois. Lorsque tu es là, tu ne le vois plus le prestige, pantoute. Tu arrives, tu travailles, puis le monde qui te voit à l'hôpital, ils s'en foutent là, que tu sois neurochirurgien ou cardiologue. C'est des choses que faut pas que tu prennes une décision de carrière basée là-dessus, parce qu'au jour le jour, quand tu es dedans, tu ne vois plus ça du tout. Tu le vois plus du tout. C'est pas ça qui te donne une satisfaction comme tel.
À part les proches du patient que tu as dû opérer le cerveau ou quoi que ce soit, puis qui te disent merci à la fin. Ah, ben oui. C'est l'affaire que tu vois. Là,
mais ça, c'est de la valorisation. Puis ça, peu importe ce que tu fais, je veux dire, au bureau. Et ça, j'en arrive. Ça, c'est un des avantages de la médecine familiale. C'est que des merci puis des cartes de Noël, là, t'es probablement, si tu aimes ça, avoir ça de tes patients, t'es vraiment à la bonne place pour ça, parce que tes patients, ils finissent que par vraiment t'apprécier, parce qu'ils te voient, ils te rencontrent, ils te parlent de leurs problèmes. Souvent, tu vas suivre les membres de leur famille aussi. Donc ça, t'es quand même très... Il y a comme une appréciation des patients que tu n'as pas si tu vois les patients juste de façon sporadique.
Vous voulez économiser pour allumer votre poêle l'hiver? Allez en médecine familiale.
Donc, c'est clairement un avantage. Un autre avantage, moi, celui qui a fait en sorte que j'ai switché, le plus important pour moi dans tout, l'ensemble de la liste, c'est vraiment la liberté de pratique. C'est-à-dire le fait que là, en ce moment, je travaille vraiment beaucoup parce que j'ai la santé pour le faire, j'ai la forme pour le faire à l'heure actuelle. Mais si rendu à 55 ans, je veux diminuer ma pratique, je vais être tout à fait libre de le faire. Tandis que si j'étais chirurgien, ça se peut que je ne puisse pas le faire. Tu comprends? Donc, peut-être qu'à 55 ans, je vais travailler encore autant que je travaille en ce moment. Peut-être qu'à 60 ans, je vais travailler autant que je travaille en ce moment. Mais je ne sais pas, mais c'est très difficile à dire.
Mais s'il y en a plusieurs qui font ça, Karim? Mettons que, je ne sais pas, des gens qui ont fait du spécialisé... Quasiment toute leur carrière, mais en fin de carrière, ils se décident, mettons, je vais, pour finir mes vieux jours, je vais être plus tranquille, je vais retomber omnipraticien.
Non, tu peux pas. Ah, non, parce que c'est deux formations complètement. Non, tu serais dangereux. C'est-à-dire, tu peux pas avoir fait de la gynécologie toute ta vie, puis après ça, aller faire de la médecine familiale. C'est-à-dire que tu vas avoir un cas de cardio, tu vas être dangereux. Non, il faut que tu aies vraiment la formation de résidence. Il faut vraiment que tu aies la formation de résidence en médecine familiale, comme qui est une résidence, comme la résidence en cardiologie, comme la résidence. Donc, c'est pas. Okay. Mais c'est une très bonne question. Il y a des gens qui le posent, là, qui disent OK, clairement, tu ne peux pas faire ça. Donc, ça, tu as quand même une liberté de mouvement aussi. C'est-à-dire, plus ta spécialité elle est pointue, plus elle se pratique uniquement dans certains hôpitaux. Donc, tu n'as pas beaucoup de choix. Moi, personnellement, je peux me promener un peu partout si je veux. Là. Donc, si je suis tanné d'un coin, je peux m'en aller dans un autre coin. Si je suis tanné de l'ambiance de travail n'est pas bonne avec mes collègues ou des choses comme ça, je peux décider de partir. Je pourrais décider d'aller au Saguenay, de retourner au Saguenay si ça me tentait. Je pourrais décider d'aller sur la Côte-Nord, des choses comme ça. Donc, tu es beaucoup plus mobilisable. Puis ça, c'est un des points qui est un avantage. La diversité de pratiques, personnellement, je le vois comme un avantage, apprendre un peu à tous les jours. Moi, je vois ça comme un avantage. Il y en a qui le voient comme un inconvénient, par contre. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour là, des avantages et inconvénients. Puis, j'essaierai de dire quelle solution on pourrait apporter à ça. Avant d'aller, tu sais, quelle solution? Bon, le dernier point qui est un gros désavantage, c'est la paperasse, la lourdeur. Parce que comme tu es le médecin traitant du patient, comme c'est toi qui suis le patient, c'est assez rare que le spécialiste va remplir des formulaires d'assurance ou des choses comme ça. Ça peut arriver, mais souvent, il va référer à son médecin de famille pour faire ça. Donc, les formulaires de CNESST, par exemple, pour les accidents de travail, les formulaires d'assurance, les formulaires de Revenu Québec ou les formulaires de Revenu Québec, d'Emploi Québec, du ministère du Revenu du Canada… c'est tout toi qu'il faut qu'ils remplissent ça. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a une lourdeur. Lorsque tu peux diminuer la lourdeur bureaucratique en décloisonnant les professions, exemple, ce que le ministre de la Santé veut faire, ça, c'est une bonne chose, c'est de faire en sorte que, par exemple, disons qu'un patient est suivi par un physiothérapeute pour... il y a une entorse lombaire, un physiothérapeute est très bien capable de le suivre. La CNESST, à l'heure actuelle, souvent, le plus important pour l'entorse lombaire du patient, ce n'est pas le médecin, c'est le physiothérapeute. Mmh. Et souvent, le médecin, on va corroborer, on va signer, puis on va dire on est d'accord avec ce que le physio suggère, mais il faut quand même que ce soit le médecin qui remplisse le papier de CNESST, parce que c'est exigé par la loi, il faut que ce soit un médecin qui remplisse ça. Médecin ou je crois que les infirmières praticiennes spécialisées ne pouvaient pas le faire jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais là, vont pouvoir le faire. Là, ce qu'on veut faire, c'est diminuer ça, puis enlever un peu de lourdeur aux médecins de famille, puis dire, regarde, un physiothérapeute peut tout à fait faire ça. Là. Donc, il va pouvoir maintenant remplir le papier de CNESST, puis prendre le patient en charge. Puis s'il juge sa compétence dépassée, bien là, il référera au médecin, mais la grande majorité du temps, de toute façon, pour ces choses-là, c'est eux qui sont les physiothérapeutes, c'est eux qui sont souvent les plus pertinents pour le suivi des patients qui ont des accidents musculo-squelettiques suite à des accidents de travail. Après ça, c'est sûr que moi, j'aurais tendance à... Je fais partie de ceux, ça n'a pas passé au Collège Royal des médecins de famille du Canada... je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut allonger un peu la formation de résidence en médecine familiale, comme ils l'ont fait, comme ils le font. Peut-être pas aussi extrême que la Suède, mais de l'allonger pour faire en sorte que lorsque les médecins sortent, ils aient plus d'armes pour gérer leurs incertitudes. C'est-à-dire un petit peu plus de formation. Mais là, c'est sûr que si tu décides de faire ça, là, tu es en pénurie d'effectifs. Ça, c'est un des gros problèmes, c'est que là, tu vas te ramasser une année où tu as zéro médecin de famille qui sort, ou deux ans où il y a zéro médecin de famille qui sort. Ce sera assez catastrophique pour le réseau. Donc, avant de décider de faire ça, il faut déjà qu'il y ait plus d'effectifs.
Oh, ouais.
C'est un peu ça. Donc, je comprends pourquoi ça n'a pas passé, mais je pense que l'approche suédoise avec une formation plus longue pour les médecins de famille rassurerait les étudiants qu'ils ont la formation nécessaire pour gérer l'ensemble des incertitudes qui vont leur arriver, particulièrement en début de pratique.
Le présentement, leur formation, c'est quoi? C'est combien de temps à peu près?
La formation générale, c'est 5 ans. Puis la formation de résidence, c'est 2 à 3 ans, dépendamment du créneau où est-ce que tu vas. Okay. La formation de résidence en spécialité, c'est 5 ans. En Suède, la formation de résidence en médecine familiale, c'est 6 ans. Ils sont un peu extrêmes.
Oui,
exactement. Moi, je pense que d'ajouter une année de formation en médecine familiale pour faire en sorte que ce soit 3 ou 4 ans de formation de résidence, ce serait mieux que 2 à 3 ans. Donc, d'ajouter une année supplémentaire, je pense que ça pourrait aider. Particulièrement dans des créneaux, parce que particulièrement dans des créneaux plus pointus. Si tu veux faire de l'obstétrique, si tu veux faire de l'urgence, si tu veux faire l'urgence, déjà, il y a une troisième année qui se donne là, pour les médecins de famille qui font de l'urgence. Ça existe déjà. Okay. Mais pour toute la gestion des pathologies diverses, je pense que les médecins de famille auraient besoin de plus de stages en santé mentale. Ça aiderait beaucoup parce qu'on a beaucoup, beaucoup de santé mentale, particulièrement avec le manque d'accessibilité des psychiatres. Moi, je serais en faveur de rajouter une année de formation de résident. Puis moi, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup aidé, le fait que j'ai fait de la neurochirurgie avant, parce que je suis arrivé plus mature, puis je suis arrivé, j'avais déjà une formation à l'hôpital, j'étais habitué de voir des patients très malades. Et ça a fait en sorte que j'ai trouvé ma résidence après en médecine familiale relativement…
Facile.
Pas facile, je dirais, parce que quand même, tu vois des gros cas, tu vois des cas complexes, ouais. Mais plus facile que si je sors, par exemple, du 5 ans de médecine générale, puis là, je m'en vais faire une résidence de médecine familiale de 2 ans, puis tout de suite, j'arrive, puis c'est moi qui gère… les cas multisystémiques, les cas complexes qui prennent en charge la santé générale des patients au bureau. Je pense que ça pourrait aider comme solution. Augmenter les effectifs globaux. Tu sais, on en avait déjà parlé par rapport à certains pays européens, en l'occurrence les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Suède. Si tu augmentes les effectifs globaux, ben naturellement, dans ton pourcentage de disons que tu formes au Québec 350 médecins de plus par année, bien naturellement, tu en as un pourcentage là-dedans qui vont décider d'aller en médecine familiale. Donc ça, tu vas quand même augmenter tes effectifs. Et on sait qu'on manque d'effectifs si on se compare aux pays les plus performants sur la planète. Après ça, peut-être impliquer plus les médecins de famille au sein de la formation académique des jeunes étudiants en médecine. Parce que souvent, dans ta formation, tu sais, tu vas faire, c'est très séquencé, c'est-à-dire tu as un cours de cardiologie, tu as un cours de néphrologie, tu as un cours de pneumologie. Naturellement, c'est un pneumologue qui vient te donner le cours, c'est un cardiologue. Donc, tu as beaucoup de stages en spécialité. Peut-être allonger un peu la formation puis donner plus de stages en médecine familiale et d'impliquer plus les médecins de famille dans la formation académique pour montrer un peu comment gérer des cas multisystémiques.
Oui, parce que là, tout ce que tu nous expliques, c'est qu'en gros, la formation de médecine familiale, c'est majoritairement des spécialistes qui la font.
La formation de médecine générale, comme ton 5 ans avant d'aller faire ta résidence, oui, c'est majoritairement des spécialistes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que tu as plus de contacts avec les spécialistes. Ayant plus de contacts avec les spécialistes, ben, inconsciemment, tu peux avoir un intérêt plus grand pour te diriger vers ça. Donc, ça résume un petit peu ce sujet-là, qui n'est pas un sujet si lourd que ça, mais je trouve que ça valait la peine d'en parler, parce que dans les médias, on en parle quand même beaucoup de ça, puis ça revient constamment, la pénurie de médecins de famille au Québec, ça revient. Donc, ça, c'est une des causes également, puis on essaie d'apporter quelques solutions à travers ça. Maintenant, je serais rendu à la question, à la section...
Section Q&A.
Ouais, on va y aller. Donc, quelque chose qui me revient souvent, c'est est-ce qu'il y a encore des quotas en médecine? Des quotas, c'est-à-dire par rapport au salaire, c'est-à-dire, disons, tu n'as pas le droit de faire plus que tant, puis après ça, tu n'es plus payé, donc tu t'en vas te faire griller en Floride. La réponse est faux. Ça n'existe plus, ça.
Okay.
Ça, c'était vrai. L'histoire des quotas, puis là, tu avais des médecins, par exemple, qui travaillaient comme des forcenés pendant 6 mois. Ils atteignaient leur quota, puis ils partaient 6 mois se faire griller en Floride.
C'est depuis quand que ça n'existe plus, Karine?
Ça fait longtemps. Moi, depuis que je suis en formation, en médecine, ça n'existe plus. Là. Donc,
fait que c'était plus genre avant les années 2000, c'était plus dans 90-80
Exactement. Exactement. Je ne pourrais pas te donner la date exacte, là, mais depuis les années 2000, c'est plus comme ça. Là, maintenant, il y en a qui vont tergiverser puis qui vont dire « Ouais, mais c'est écrit, j'ai fouillé dans la RAMQ que, par exemple, un médecin de famille ne peut pas charger plus que tant d'interventions cliniques puis un ORL ne peut pas charger plus que ça par mois de telle intervention. » Bon. Il y a des petites choses qui existent comme ça. Mais ça, c'est pour faire en sorte que, tu sais, des fois, tu avais des médecins qui abusaient, qui surfacturaient. Donc là, la RAMQ a dit, je vais donner un exemple. Par exemple, en médecine familiale, au bureau, tu n'as pas le droit de charger plus qu'un nombre X de ce qu'on appelle des interventions cliniques, OK, dans une même journée. Mais pourquoi? C'est parce que l'intervention clinique, elle est quand même très payante. OK? Donc, assez payante. Et là, c'est sûr que si tu es toute ta journée sur l'intervention clinique, puis tu es toute ton année sur l'intervention clinique, tu en avais qui faisait ça, bien là, c'est comme pas raisonnable qu'à la fin de l'année, tu sois rendu, tu sais, je veux dire, tu billes 1 million. Là. C'est comme à faire du suivi en bureau de façon générale.
Il y en a qui aimaient trop soigner le patient qui peut-être pas. Tu sais, vous avez mal au coude, bon, au coude, on va vous faire une opération au bras ouvert pour vous changer un nerf, de quoi tu sais.
Tu sais, je veux dire ça se passe pas vraiment parce que déontologiquement, tu peux perdre ta distance.
Non, là,
si
je caricature.
Je comprends avec tu caricatures, je comprends ton point. Mais donc, il y a comme. C'est qu'on sait très bien que la probabilité. Ce qui vaut la rémunération d'une intervention clinique, c'est-à-dire un cas qui est quand même particulièrement complexe à gérer, tout ça, tu n'as pas de ça toute ta journée. Tu as des cas où dans ta journée, tu vas avoir aussi une otite, puis tu vas avoir aussi quelqu'un qui a besoin de faire renouveler ses prescriptions. C'est sûr que si tu passes une heure avec un patient dans le bureau parce qu'il arrive, il a mal dans la poitrine, tu ne peux vraiment pas prendre ça à légère, puis en plus, il dit « Ah, en passant, docteur, j'ai des idées noires. » Bon. C'est sûr que là, s'il faut que tu fasses toute la cardio, puis en plus de ça, il faut que tu rentres dans santé mentale. Puis là, il faut que tu saches est-ce que le patient est à risque, faut que tu l'envoies à l'hôpital, tu portes un antidépresseur, puis là, tu gères sa douleur dans la poitrine. Ça, je veux dire, intervention clinique. Je veux dire, c'est tout à fait justifié. Mais tu ne peux pas charger une intervention clinique pour quelqu'un qui arrive et qui a mal à la gorge, puis qui a une pharyngite. C'est déraisonnable. Donc, pour cette raison-là, parce qu'il y avait eu de l'abus, la RAMQ a dit wow, OK. Où il y en a un nombre maximum par jour. Même chose. Donc, mais ça, ce n'est pas des quotas absolus de salaire, c'est plutôt des quotas d'actes cliniques qu'on juge démesurés si tu en charges trop. Mm-hmm. C'est un petit peu ça. Donc, ça, c'est pour la question des quotas. Ça me revient, cette question-là m'est revenue à quelques reprises. C'est-tu vrai que c'est tellement plus payant aux États-Unis? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de ton domaine de pratique. Vraiment, ça dépend. C'est de façon générale plus payant parce que c'est sûr que tu es payé en US, OK? Mm-hmm. Mais donc, pour tes voyages à l'étranger, c'est mieux sur le plan salarial. Mais c'est sûr que si tu travailles, si tu es payé en US puis tu vis aux États-Unis, tu dépenses en US. Mais c'est sûr que si tu vis au Canada, c'est avantageux de voyager. Puis si tu vas voyager en Europe, tu as un dollar qui est plus performant. Donc, tu as ça. Souvent, c'est l'impôt. L'impôt fait la différence. Donc,
ça doit dépendre des États aussi, hein, Karim?
Ça dépend des États. C'est sûr qu'en Floride, je pense que tu as juste 21% d'impôt parce que tu as juste le fédéral. Tu n'as pas la taxe. T'as pas la taxe d'État, d'État de la Floride. Donc, c'est sûr que c'est avantageux. Là. Financièrement, ça devient avantageux. La Californie, moins, parce qu'ils payent presque autant d'impôts que le Québec. paye moins d'impôts que le Québec, mais pas loin. Oh, donc, ouais. C'est beaucoup la question de l'impôt, du dollar US et du domaine, c'est dans quoi tu pratiques. C'est-à-dire, par exemple, un spécialiste, un surspécialiste de pointe va gagner généralement beaucoup plus aux États-Unis. Un urgentologue, quand je regarde un petit peu les données, c'est un petit peu plus. C'est-à-dire, mettons que j'étais urgentologue aux États-Unis, je ferais un petit peu plus. Si tu prends le salaire absolu, significativement plus, dépendamment de l'État en raison de l'impôt. Mais en termes salaire brut absolu, ce serait un petit peu plus, mais pas tant que ça. Donc, c'est pas vrai que tu traverses la frontière aux États-Unis, puis là, tu quadruples ton salaire, puis soudainement, tu peux t'acheter un yacht. Là. C'est pas tout à fait comme ça, mais dans certains États, il y a un avantage fiscal qui est quand même non négligeable, disons. Une autre chose, c'est quoi la différence entre le Collège des médecins et les syndicats des médecins? Et ça, je suis content qu'on m'ait posé cette question-là parce qu'on entend vraiment du n'importe quoi tout le temps par rapport à ça.
Veux-tu ma réponse? Le taux de resserrement sur les couilles du gouvernement. Moi, c'est même que je le verrais.
Tout ça, c'est comme ça que tu le vois.
Ouais, c'est ça. Je pense que le Collège des médecins a plus de marge de manœuvre. Puis pas mal, en tout cas, selon moi, ont beaucoup plus de contrôle. Les bourses sont beaucoup plus écoutées que les autres centrales syndicales. En tout cas, c'est comme le top, le roi de la montagne, si je peux dire, là.
Leur rôle est différent. C'est-à-dire, le collège, c'est un ordre professionnel qui régit la pratique des médecins. Donc, son rôle, c'est la protection du public. Donc, c'est-à-dire, disons que tu fais du malpractice, bien, c'est eux qui vont te taper sur les doigts. C'est eux qui t'exigent la formation continue. Donc, tu as un minimum de formation continue. C'est 250 heures par 5 ans. Donc, si tu ne fais pas ça, ben là, tu vas être sanctionné. Tu sais, déjà, c'est beaucoup comme ça.
Après ça, vérités sur la COVID-19 d'une radio de Québec. Tu sais aussi.
Exactement. C'est donc, ce que tu as le droit de dire publiquement, ce que tu n'as pas le droit de dire publiquement, ça, c'est vraiment, c'est le rôle, ça, c'est le collège comme tel. Donc, le collège, ce n'est pas... contrairement à ce que beaucoup disent, là, c'est pas l'ami des médecins. Là. La majorité des médecins, ils veulent pas le voir, le collège, du tout. Là. Tu comprends?
C'est le bureau inquisitorial des médecins.
Exact. Tu caricaturises, mais, pour le commun des mortels, c'est bien de le caricaturiser dans le sens que c'est important que monsieur, madame, tout le monde comprenne c'est quoi là, la différence entre les deux. Puis c'est pour ça qu'il y a quelques auditeurs qui me l'ont posé, cette question-là.
Mais c'est pas tout seul, hein, parce que, excuse-moi, peut-être une mini-parenthèse, Karim, parce que tu sais, il y a différents collèges. Tu sais, il y a le collège des médecins, mais je pense qu'il y a aussi. Ben, on parle des collèges ou des ordres professionnels, mettons l'ordre des psychologues ou l'ordre des notaires.
Mais le collège des médecins du Québec est aux médecins ce que l'ordre des psychologues est aux psychologues. Exactement.
J'avais entendu quoi d'assez spécial là-dessus, puis c'est une mini parenthèse, mais je trouve des fois qu'il y a comme un côté un petit peu trop se prendre au sérieux. Là, comme, hey, vous êtes juste un nom professionnel, vous n'êtes pas reine d'Angleterre. Il y avait quelqu'un que je connaissais que c'est une femme, elle était psychologue de formation, plusieurs années membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis c'était relié justement à la politique. Puis elle disait, selon les directives pour l'Ordre des psychologues du Québec, il dit selon leurs directives, il m'est impossible de me présenter en politique et de dire que je suis psychologue. Il faut que je dise absolument que je suis, mettons, détenteur d'un doctorat ou d'une maîtrise en psychologie.
J'ai entendu ça également d'une psychologue qui m'avait dit ça. Je suis surpris, mais oui, apparemment. Donc, c'est-à-dire que chez les psychologues, pour ces choses-là, c'est plus sévère que le Collège des médecins, là, pour ces genres de choses-là. L'ordre des psychologues, c'est quand même quelque chose.
C'est quoi? Parce que là, tu t'en vas en politique. De facto, tu n'iras pas faire de la pratique clinicienne. On s'entend, tu vas dire que c'est interdit. Fait qu'en quoi relier la politique à la psychologie, ça fait... Tu sais, les médecins le font, puis les avocats le font, toutes les autres professions le font.
Les ingénieurs le font, toutes
les autres. C'est une parenthèse que je fais, mais je trouve tellement que c'est comme, nous nous sommes au-dessus de ça. Là, non, vous n'avez pas le droit de prendre notre terme.
Honnêtement, l'ordre des psychologues, je les trouve saucés là-dessus.
Parce que, je trouve que ça fait c'est un peu sectaire, des fois, j'ai l'impression, les autres professionnels, dans certaines pratiques.
Ils se démarquent des autres ordres professionnels par rapport à ça. C'est vrai, ce que tu dis, vraiment, une psychologue me l'avait confirmé, qu'en réalité, je veux dire, moi, je pense, en politique, ça te prend des gens de tous les domaines. C'est important que tu aies quelques médecins, c'est important que tu aies quelques infirmières, c'est important que tu aies des ingénieurs. À un moment donné, je veux dire, ministre de l'énergie, là, c'est quand même intéressant. Tu es un ingénieur, ça peut être très intéressant à avoir.
Ça peut être pratique.
Exactement, c'est en plein ça. Donc, ouais, l'ordre des psychologues, assez saucé là-dessus, disons. Maintenant, c'est ça. Est-ce que c'est le Collège des médecins qui décide si une infirmière a le droit de faire un acte médical? Est-ce que c'est le Collège qui décide ça ou est-ce que c'est le ministre de la Santé? La réponse est le ministre de la Santé. C'est le ministre de la Santé. Le Collège n'a pas le pouvoir de dire au ministre « les infirmières n'ont pas le droit de faire ça, les pharmaciens n'ont pas le droit de faire ça ». À partir du moment où
FIC qui s'occupe des autres de toute façon. C'est la FIC, c'est la Fédération des infirmières.
C'est leur syndicat. C'est l'ordre professionnel.
L'ordre professionnel, exactement.
C'est-à-dire, donc, c'est une négociation entre le ministre de la Santé du Québec et l'Ordre des infirmières. Maintenant, l'Ordre des infirmières, eux autres, ils peuvent dire, par exemple, c'est bien beau que... Ça arrive, là, des choses comme ça. Là. Même chose pour l'Ordre des pharmaciens. Lorsque le ministre, par exemple, veut donner plus de pouvoir aux infirmières, aux pharmaciens, aux physios, des fois, leur ordre professionnel vont dire « Ouais, mais attendez un peu, là. Nos membres n'ont pas la formation pour ça. Là. Nous autres, ça va nous prendre du temps parce qu'il faut assurer la protection du public. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas nous arriver demain matin et ils ont le droit de faire ça. Sinon, ça leur prend, nous, on juge que ça leur prend une année, deux ans de plus de formation ou trois mois de formation continue dans quelque chose, tout ça. Mais ce n'est pas le collège qui décide si les infirmières ont le droit de faire quelque chose ou pas. C'est une fausseté. C'est le ministre de la Santé qui a ce pouvoir-là. Et par contre, le ministre de la Santé, des fois, il peut se faire freiner, pas légalement parlant, mais par exemple, l'Ordre des infirmières pourrait dire « Ouais, on n'est pas prêt encore à ça. » Ou l'Ordre des pharmaciens peut dire « On en est déjà assez sur les épaules en ce moment. » Ça va prendre plus de formation pour nos pharmaciens. Puis à partir du moment où est-ce qu'ils auront plus de formation, bien, la loi rentre en vigueur. Il y a des négociations comme ça, là. Mais le fait que le collège empêche les infirmières de faire des prescriptions ou des choses comme ça, oubliez ça. C'est pas ça. Maintenant, les syndicats, ce qu'on appelle FMOQ, FMSQ, ça, c'est des syndicats. Okay? Donc ça, eux, vraiment, ils ont un billet favorable à leurs membres. C'est un vrai billet pour ce syndicat. C'est leur rôle. C'est quoi la différence entre la FMOQ, la FMSQ et par exemple la CSN, la FTQ, la FIC? C'est que les syndicats de médecins, ils s'en tiennent, ils ne sont pas invasifs sur la pratique des médecins. OK? Je vais expliquer. Ils sont très partisans, naturellement, et quand c'est le temps d'aller négocier les enveloppes budgétaires avec le gouvernement, ils représentent là, les médecins. Donc, ils veulent avoir une enveloppe budgétaire plus importante, ils veulent des améliorations des conditions, comme tout syndicat. Par contre, la différence, c'est qu'ils ne viennent pas s'immiscer dans la pratique. Autrement dit, ce n'est pas comme le syndicat des infirmières qui va déterminer si une infirmière, quelle infirmière peut avoir tel poste en raison de son ancienneté ou non. Ça, ce n'est pas... Nous, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire, ils ne diront pas « Ah, docteur El Ayoubi ne peut pas avoir le poste à tel endroit parce que docteur un tel a plus d'ancienneté que lui. » Ils ont zéro mot à dire là-dessus. Donc, c'est un syndicat qui est, oui, très partisan, puis c'est normal. Un syndicat, il faut qu'il soit partisan pour ses membres.
Par définition.
C'est pour ça qu'on le paye. Là. On donne 2 000 $ par année pour ce syndicat-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est normal qu'il nous représente. Mais... ils ne sont pas envahissants dans notre pratique. Donc, ça, c'est... Autrement dit, pour nous, c'est les bons côtés d'un syndicat sans les mauvais côtés. Pour nous, là, on parle. Tu sais,
d'un point de vue extérieur, ils semblent être... Je pourrais me tromper, là. Autant que je ne travaille pas dans ton domaine, Karim, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins militants, moins corporatisés, je dirais, que, par exemple, les FTQ, CSN et les grandes centrales, un peu, là. Des fois, ils défendent leurs membres, ça reste des syndicats, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins dans la démagogie un peu. Je ne remonterai pas l'article, mais dans l'article du Journal de Montréal qu'on a mis au début de l'article, il dit le chef syndical explique vraiment que, regarde, il y a un constat d'échec, qu'il y a cause de telle raison, il va falloir que ça change. Il n'est pas genre que. Ouais. En tout cas, il n'est pas dans les boutades habituelles que c'est de la faute de tout le monde sauf de nous autres. Là.
Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ton affirmation. Et. Également, ben, il nous offre de la formation continue. Ça, par exemple, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, là, la formation continue qu'ils offrent là, sur leur site web, c'est vraiment super bon. Là. C'est-à-dire, t'en as comme à l'infini, ben, au moins c'est ça, là, à 2000 par année, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ça, c'est
quand vraiment... t'es forcé de lui donner 2000 en plus, au moins c'est ça qui rentabilise. Alors,
ça, c'est vraiment intéressant. Tu payes, tu as de la formation continue, puis tu peux en faire, tu sais, je veux... ad nauseam. Là. Tu peux
à
en
faire tout.
Ouais. Ah, il y en a tellement. Ça fait que tu sais, quelqu'un qui est fasciné par le domaine médical puis qui veut faire de la formation continue sans arrêt, là, t'en as. T'en as en cardio, t'en as en psychiatrie, t'en as en gynéco, t'en as. Donc, ça, c'est vraiment le rôle. Donc, on sépare c'est quoi l'ordre professionnel versus les syndicats. On en a parlé un petit peu. On me pose la question, comment ça se fait que vous décloisonnez pas les professions? Comment ça se fait que les infirmières peuvent pas en faire plus? Comment ça se fait que les pharmaciens peuvent pas en faire plus, etc., etc.? La grosse difficulté, on n'est plus dans les années 80, là, ici, là. Mm-hmm. C'est plus les méchants médecins qui veulent absolument... Il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses que maintenant, c'est le contraire. C'est plutôt les médecins, nous, qui poussons pour que les autres professionnels puissent en faire plus. Ce qui n'était pas le cas, j'allais dire, c'est qu'il y a tellement de jobs, tu as tellement de listes d'attente, tu es tellement débordé que moi, si je pouvais ne plus suivre de cholestérol du tout dans ma vie, je serais bien heureux. Si je pouvais ne plus traiter de maux de gorge, des pharyngites, je serais bien content. Si tout ça s'était fait par des infirmières, moi, je serais super content. Puis la grande majorité de mes collègues aussi. Je pourrais passer plus de temps pour faire des infiltrations éco-guidées, des choses comme ça. Je pourrais passer plus de temps à aller faire de la formation continue, me former dans des choses plus pointues. Vraiment, on est rendu là. Le problème, puis je comprends mes collègues infirmières, pharmaciens, physio, c'est qu'ils en ont déjà beaucoup dans leur cours aussi. Puis à partir du moment, la loi à l'heure actuelle, si on prend là particulièrement la pharmacie, qui est un domaine que je connais quand même bien parce que j'ai été en couple là, plus d'une décennie avec une pharmacienne, et les lois 31 et 41 à l'heure actuelle, ils permettent de faire énormément de choses aux pharmaciens. Et souvent, ils n'ont juste pas la capacité de le faire. Par manque d'effectifs de techniciennes, parce qu'en ce moment, tu as très peu de techniciennes en pharmacie qui sont de niveau collégial, c'est-à-dire qui pourraient prendre plus de responsabilités sans que le patient soit mis en danger pour que le pharmacien puisse faire plus de renouvellement de prescription avec des suivis de glandes thyroïdes, des suivis d'hypertension, des suivis de cholestérol. Les pharmaciens ont tout le droit de faire ça, là. Suivi de cholestérol, suivi d'hypertension, suivi d'hypothyroïdie. Il y a énormément de choses qu'ils peuvent faire, mais ce que le président de l'Ordre également m'avait dit quand j'avais discuté avec lui à la dernière campagne électorale, il m'avait dit « wow, avec ton décloisonnement, là, fais attention. » Il dit « on en a déjà tellement là, sur les épaules. » Assurez-nous de nous donner également et de rémunérer ça, parce que c'est très mal rémunéré, selon leur dire. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas les incitatifs nécessaires pour faire ce que la loi leur permet.
Mais là, c'est-tu fait? Parce que tu sais que j'ai entendu quelques années supposément qu'ils avaient ouvert un peu la porte à certaines droits de prescription pour les pharmaciens.
Tu peux regarder dans Google loi 31 et 41 en pharmacie, tout ce qu'ils ont le droit de faire. Les gens diraient « Oh, je ne savais pas qu'un pharmacien pouvait refaire tout ça. » Mais oui, là, ils peuvent. C'est depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de décloisonnement. Et même, c'est surprenant quand tu regardes la loi, tout ce que les infirmières ont le droit de faire. Ouais. Mm-hmm. Une infirmière, elle peut, tu as un enfant qui a une coupure dans le front, elle peut réparer sa plaie si elle veut à l'urgence, avec de la colle. Tu as des façons de réparer, là. Tu peux faire
soit des déjà points. En partant qu'elle n'ait pas eu le droit à un moment donné de faire ça, ça prouve à quel point...
Exact, on est d'accord.
Mais... une infirmière, si c'est pas grave de prendre une autorisation pour réparer une coupure dans le front d'un enfant, je suis désolé, mais de quoi qui marche pas, là? Je suis désolé. Là.
Ça, on est tout à fait d'accord, mais maintenant, il y a autorisation pour faire ça. Sauf que c'est pas un ordre de le faire, tu comprends? À partir de ce moment-là, L'infirmière, elle va dire, ouais, mais moi, moi, pourquoi je prendrais la responsabilité de ça? Je peux tout à fait l'envoyer au médecin. Puis si tu lui demandes d'en faire plus, qu'elle en a déjà pas beaucoup dans sa cour, c'est sûr que là, il va avoir une négociation, il va demander plus d'argent. Tu comprends? Donc, le décloisonnement, il n'est pas si facile que ça, parce que si c'était uniquement là, ce qu'on présente de façon générale, les méchants médecins qui veulent pas, puis tous les autres professionnels, ils en veulent beaucoup. Hey, ce serait-tu facile pour un ministre de la Santé? Il te présente ça médiatiquement. Tu as une gang de méchants médecins qui veulent pas que les infirmières, elles veulent contribuer plus. Les pharmaciens veulent contribuer plus. Les physios, tout ce monde-là, disent on est capable, on en veut plus. Puis là, tu as les méchants médecins qui font en sorte que les patients attendent longtemps. Mettons que c'était si facile que ça, le ministre de la Santé, sa job serait ultra facile pour le décloisonnement. Il fait venir un journaliste, il fait venir les journalistes en conférence de presse, il dit, regardez, là, tous les autres professionnels, tac, 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 ils veulent tout faire ça, puis les méchants médecins, ils refusent. Ben, la job serait très, très, très facile. Donc,
c'est l'image, personnellement, même moi, pendant un bout de temps, je pensais réellement ça, c'est l'image beaucoup d'un point de vue extérieur qu'on pensait qu'il y avait, par exemple, sur l'époque du gouvernement Couillard. T'es un médecin de formation premier ministre avec l'ancien président de, je sais pas, c'est-tu le collège des médecins avec Barrette ou c'était le...
Non, c'était le il était Gaëtan Barrette, il était président avant de faire de la politique. Il était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
OK, ben c'est ça, parce que
c'est un radiologue de formation.
C'est ça, fait que tu il y avait comme un genre de d'aura, je dirais pas de copinage, mais tu sais genre premier ministre médecin, ministre de la santé médecin, tu sais, puis que fuck les infirmières, fuck les pharmaciens, c'est rien que les médecins et les spécialistes qui vont recevoir.
Gaëtan Barrette a beaucoup décloisonné. C'est un de ceux, ça c'est une des bonnes choses.
C'est capoté pour un gars qui est centralisé autant quand même. Hein,
oui, il a centralisé. Ça, c'est sa grosse faiblesse, selon moi. C'est l'ultra-centralisation qui n'a vraiment pas aidé là, dans le réseau. Mais parce que, tu sais, je veux dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Mm-hmm. Gaëtan Barrette a décloisonné quand même beaucoup. Il a décloisonné, mais maintenant, est-ce que ça s'applique sur le terrain? Comme je dis, c'est plus compliqué à l'appliquer sur le terrain parce qu'il faut que les professionnels acceptent puis qu'il y ait les incitatifs nécessaires. Mais oui, il a décloisonné, puis Christian Dubé continue dans le décloisonnement. Mais il était très honnête, Christian Dubé, en disant, puis je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est très compliqué de décloisonner. Puis quand il dit c'est très compliqué, si c'était juste méchant médecin, gentil autre professionnel de la santé, ce ne serait pas vraiment compliqué. Surtout qu'il y aurait la faveur du public complètement avec lui.
Donc,
pour répondre à cette question-là. Puis une dernière que je dirais, puis on en refera d'autres à un autre moment donné. Mm-hmm. Est-il pertinent qu'un ministre de la Santé soit comptable? La réponse est oui. C'est que pour être un ministre, pour être par exemple un ministre de la Santé, tu peux tout à fait être comptable, tu peux être actuaire, tu peux être économiste, tu peux être médecin, tu peux être infirmière.
Podcaster.
Tu peux être podcaster aussi. C'est que il y a des avantages et des inconvénients. Je vais te donner un exemple. Mettons, si tu es médecin ou infirmière, tu connais, par exemple, moi, ma force, c'est que je connais très bien le réseau de la santé. Je sais vraiment bien comment ça se passe à l'intérieur du réseau. Je veux dire, c'est sûr que pour des Christian Dubé comme comptable, avec les chiffres, c'est sûr, lui fait juste des chiffres tout le temps, il va être meilleur que moi, c'est sûr. Le principal, c'est d'avoir une vision, OK? C'est-à-dire, tu peux être comptable et avoir une vision, tu peux être médecin et avoir une vision, tu peux être infirmière et avoir une vision, tu peux être actuaire et avoir une vision. Et l'inverse également, tu peux être tout ça et avoir aucune vision, puis continuer dans le même modèle puis te planter. Donc, le plus important, c'est d'avoir une vision, d'avoir une formation académique nécessaire pour faire une analyse rigoureuse. Je veux dire, comptable, c'est bien correct. Et faut que tu aies l'humilité de, selon moi, là, moi c'est ma perception, il faut que tu aies l'humilité de t'entourer de gens complémentaires à toi. C'est-à-dire, si tu es médecin, ben, de t'entourer autour de toi dans ton équipe pour te conseiller dans ton ministère de la Santé. Si tu es médecin, tu t'entoures juste de médecins, tu risques de te planter. Si tu es médecin, tu es mieux de t'entourer de gestionnaires, de comptables, d'actuaires, d'économistes, de gens qui vont compléter ton... Parce que moi, il y a un an et demi, j'avais conseillé, là, il y avait des économistes qui m'avaient demandé de les conseiller pour une étude qu'ils avaient à publier pour voir un peu. Puis l'économiste en question était super gentil. Puis lui, il avait vraiment cette humilité-là. Il m'avait dit, tu sais, nous autres, on est dans notre tour d'ivoire avec nos chiffres, nos banques de données. Mais est-ce que ça s'applique sur le terrain, ce qu'on veut faire?
C'est ça.
Ça, exactement. Puis, tu sais, la force de quelqu'un qui est dans le réseau, c'est de voir ce qu'on appelle la validité externe d'une étude, la validité externe d'un modèle. Est-ce que c'est beau, les chiffres, les calculs, tout ça, mais est-ce que dans le concret, il s'applique dans le réseau? Un bon exemple que je vais donner ici, c'est, disons, le modèle suisse, il est extraordinaire, mais sa validité externe pour l'appliquer au Québec, elle est moindre que le modèle de la Suède ou des Pays-Bas, par exemple, parce que le modèle de la Suisse, quoi qu'il est extrêmement performant, puis c'est vraiment un excellent système de santé, il est tellement loin de celui du Québec que pour l'appliquer, il faudrait que tu fasses table rase complète. Mais faire table rase complète dans un réseau, tu ne peux pas faire ça. Même Milei en Argentine, ce n'est pas table rase complète. Oui, il y a une tronçonneuse, mais il brasse beaucoup. Mais tu ne peux pas prendre un modèle, casser complètement ce modèle-là puis mettre l'autre parce que tu as des êtres humains à travers tout ça. Il faut que tu aies une acceptabilité sociale. Donc, ça, c'était pour répondre à cette question-là. Moi, je n'ai aucun problème que Christian Dubé soit ministre de la Santé et comptable, mais il faut qu'il s'entoure de gens qui ont une compétence distincte de la sienne pour combler ses faiblesses, comme moi, comme un médecin, par exemple, Gaétan Barrette ou Philippe Couillard, ou peu importe. Si tu veux être médecin et ministre de la Santé, il faut que tu t'entoures de gens pour compenser tes faiblesses également, parce qu'il n'y a personne... Un ministre parfait, ça ne peut pas exister. C'est impossible. C'est une équipe autour de lui. Et c'est une vision également. Ça fait que c'est un petit peu ça. Donc, moi, ça résumerait ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Yes. Écoute, je ne pensais pas qu'on débloque encore l'heure, mais on a fait quand même.
Non, je ne pensais pas non plus, c'est ça.
C'est super intéressant. Écoute, je trouve que ça a quand même passé vite malgré tout. Fait que toujours du bon contenu avec toi, Karim. Oui, c'est ça. Puis garde. Je lance l'appel aux auditeurs. Si vous avez une question pour Karim en commentaire, laissez-nous là. Puis on va faire le message à Karim s'il y en a certaines qui l'intéressent à vouloir répondre pour le prochain épisode ou ceux qui ont également en banque. Donc, j'aime bien le concept. Merci Karim. On s'en va la semaine prochaine.
Un plaisir. Bonne semaine.
Bye bye.